bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Mounia Vande de Castel, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes et Éléonore Richard. À la réalisation, Marie Placé, prise de son, Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho ? Par Maïlys Besri.
Deuxième jour de notre série consacrée à l'économie du sport. Hier, nous avons voyagé dans le temps et dans l'espace pour faire le récit des différentes origines sociales de la pratique sportive. Aujourd'hui, ce sont les mécanismes économiques du secteur sportif qui attirent notre attention. Le sport recouvre à lui seul un véritable champ économique qui a suivi les mêmes évolutions que le capitalisme. Dès lors, il se décline en plusieurs marchés, un marché du travail, principalement des joueurs, et un vaste marché des biens et des services. L'ensemble s'inscrit dans une dynamique internationale globalisée, en partie dérégulée, et qui en dit long sur les dessous du spectacle sportif. Alors, en quoi le sport s'est-il ajusté aux contraintes économiques? Et comment l'économie de marché a-t-elle à son tour établi de nouvelles règles dans le sport? C'est ce sur quoi nous allons nous interroger aujourd'hui jusqu'à 15h. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, autour de cette table, pour parler du sport mondialisé et de l'économie de marché, Vladimir Andreev, professeur émérite à l'Université Paris 1, président du conseil scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport et auteur de Mondialisation économique du sport aux éditions de Book. À 14h50, Mounia Vande de Castel sera comme tous les jours parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Vladimir Andreev, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de cette économie sportive mondialisée, on va écouter un petit extrait de fiction, en tout cas la préface de La gloire du football, préface écrite par Jean Giraudoux et lue par Arjuna Andrade.
Plus encore que le roi des sports, le football est le roi des jeux. Tous les grands jeux de l'homme sont des jeux avec une balle, que ce soit le tennis, la chistera ou le billard. La balle est dans la vie ce qui échappe le plus aux lois de la vie. Elle est ce qui est le plus inutile. Elle a sur la Terre l'extraterritorialité de quelques bolides provisoirement apprivoisés. Elle n'est reliée en rien avec la notion de l'être animal, qui est celle du crampon, et, satellite léger du globe aux lois duquel elle obéit sans elle et avec des dérogations fulgurantes, elle a la vertu magique de n'être rien ici-bas qu'être balle. Le football doit son universalité à ce qu'il a pu donner à la balle le maximum de son effet. L'équipe de football, c'est le mur de la chistera soudain intelligent, la bande de billard douée de génie. En plus de son propre principe, celui du rebondissement, de l'indépendance, l'équipe donne à la balle le moteur de 11 malices et de 11 imaginations. Si les mains ont été supprimées du jeu, c'est que la balle, par leur intervention, cesserait d'être balle et le joueur aussi. Les mains sont des trucs. Elles ont été données uniquement aux deux animaux truqueurs, à l'homme et au singe. La balle n'admet pas le trucage, mais seulement les effets stellaires.
On entend la malice de ce texte et tous ces sous-entendus. Vladimir Andreev, qu'est-ce que vous en pensez, cette image du football ?
Ah, j'ai deux réactions. J'ai été moi-même joueur de football, donc en compétition. Même quand j'étais prof de fac, au début, je jouais encore au football en championnat. Donc oui, c'est un joli texte. La deuxième chose, c'est que c'est un texte qui est adapté à l'émission, puisque l'économie du football, c'est à peu près la moitié, au niveau mondial, c'est à peu près la moitié de l'économie du sport.
Donc quand on parle du sport, on parle...
Ça agace tous les autres, parce qu'on parle essentiellement de football. Ça agace les basketteurs, encore les basketteurs, ça va, mais ceux qui jouent à la chistera, ça les énerve, ils entendent parler sans arrêt du football.
On entend dans ce texte aussi toute cette question sous-jacente économique de la question de l'utilité, l'inutilité, ce qui d'un côté échappe à la vie, la balle, et qui est récupéré par la règle dans le jeu.
Oui. Comme tous les sports, il est réglementé. Par définition, il n'y a pas de sport sans règles. Ou alors, si vous n'avez pas de règles, vous n'attirez pas de spectateurs, par exemple. Donc, vous n'attirez pas d'argent. Dès lors qu'un sport est professionnel, il est nécessairement codifié. Il doit être codifié avant de devenir professionnel.
Mais les règles ne sont pas uniquement sportives.
Non.
Les règles économiques sont présentes aussi.
Oui, il y a des règles de droit qui s'appliquent aux sportifs. Il y a un arbitre là qui va avoir des ennuis parce qu'il a enfreint les règles sportive, mais à la limite, le joueur qui s'est fait tacler par l'arbitre pourrait porter plainte dans un tribunal, à la limite. C'est en exagérant un peu. Et puis, évidemment, il y a des règles économiques, c'est ce dont on va parler, je pense.
Alors, que dire de ces deux mains données à l'homme et au singe pour truquer? Est-ce que le truc et le trucage font partie du jeu?
Oui, évidemment. je vais vous faire un scoop. Je suis en train d'écrire un livre en anglais qui s'appelle The Economic Manipulations in Sports. C'est-à-dire toutes les manipulations possibles dans le sport. Alors, il y a des manipulations avec les mains. Au foot, on n'a pas le droit de jouer avec les mains, on joue avec les mains. Mais ça, c'est une toute petite faute. Par contre, il y a 700 matchs truqués décelés par an au niveau européen. Ça, c'est une grosse faute. Et ces matchs truqués sont liés à des paris sportifs en ligne. Ça veut dire que là, il y a des millions ou des milliards d'euros qui circulent. OK ? Et là, c'est un gros truc, une grosse chose interdite, mais c'est une partie méconnue de l'économie du sport. Si on me demandait combien c'est l'économie du sport dans le monde, c'est environ 2 milliards d'euros. Mais c'est en tenant compte d'une incertitude sur 4 à 500 millions dont on ne sait pas très bien s'ils existent, s'ils n'existent pas, s'ils sont... qui sont les paris sportifs clandestins. Je ne vais pas dire clandestin, mais frauduleux, lié à des matchs fixés, c'est-à-dire à des matchs truqués.
Donc il y a toute cette partie souterraine dont on va parler.
On ne connaît pas. Enfin, dont je ne peux pas vous parler. Je peux vous dire que ça existe, mais je ne peux pas vous donner des chiffres parce que on ne sait pas, par définition. Surtout qu'un match, ça peut se truquer à une seconde près. Maintenant, on fait du online betting. On peut parier, changer son pari à toute seconde d'un match. Donc à la 89e minute, vous pouvez changer. Et si vous avez truqué le match, vous avez intérêt à ce que tout le monde pense que c'est A qui va gagner. Et à la dernière minute, vous repariez sur B parce que vous avez acheté le gardien de but de B qui va prendre un but à la 90e minute.
Alors il semblerait que le sport, on parlait du football, mais le sport en général ait été pris lui aussi dans un système global, système économique, on disait un système qui aurait donc subi les mêmes mutations que le capitalisme, c'est-à-dire mondialisé, dérégulé.
Oui. Le titre de mon ouvrage que vous avez cité s'appelle « Mondialisation de l'économie du sport ». Ça prétend en plus être le manuel de référence en langue française, du moins. Et bien, il parle pratiquement à chaque chapitre, il y a une dimension internationale ou mondiale qui apparaît. Alors, sur le marché des joueurs, mais pas que, dans tout, pratiquement le seul marché qui n'est pas mondial dans le sport, donc c'est la seule restriction que je vais faire à l'aspect mondialisation, c'est le marché de la pratique sportive quotidienne. Normalement, je ne pense pas que vous prenez l'avion tous les jours pour aller vous livrer à votre pratique sportive préférée. Donc vous êtes dans votre club local, etc. Donc ça c'est pas internationalisé. Parce que c'est très difficile de l'internationaliser.
Le nomadisme des pratiques.
Voilà, le nomadisme des pratiques, il est limité. Enfin, il n'est pas impossible. On peut aller skier en hélicoptère, se faire déposer au sommet d'une piste de ski à 500 km de chez soi. Donc on peut être un peu nomade. Mais c'est quand même une pratique réservée aux riches, pas fréquente. Normalement, la pratique sportive se fait localement. Elle n'est pas très mondialisable. Mais pratiquement tous les autres marchés sont... mondialisable et de facto internationalisé ou mondialisé.
La particularité du sport, c'est qu'il se retrouve à la croisée à la fois de questions économiques et qu'il y a une forte influence politique aussi dans le sport,
oui.
Notamment parce qu'il y a un ministère,
oui.
Mais pas uniquement. Je vous propose d'écouter une archive de Georges Marchais de 1988, diffusée dans Le Bien Commun sur France Culture le 26 mai 2007.
Je supporte mal ce comportement... de gens qui sont là, le club doit fonctionner comme l'entreprise. C'est-à-dire que les joueurs appartenant à ce club doivent être exploités comme le sont les travailleurs dans les entreprises et pour le profit, c'est-à-dire pour enrichir. Non, à mon avis, je ne vois pas, moi, le club professionnel fonctionner de cette façon-là. J'ajoute que je vois un danger à cela. Ce sponsoring, tel qu'il se développe maintenant, conduit à un déséquilibre fantastique entre les équipes.
Alors on entend cette archive de 88 et on voit que à ce moment-là, le sport, et en particulier le football, a lui aussi pris son tournant libéral.
Oui, alors...
Notamment avec le sponsoring.
Dans les propos de Georges Marchais, il fait une grosse erreur. Alors avant de faire la grosse... Avant de vous dire pourquoi il fait une grosse erreur, je veux dire qu'il n'a pas complètement tort non plus. Bon, il regrette que les Le sport est en train de devenir une affaire d'entreprise. Et là, il a en partie raison. Simplement, il est un petit peu en avance sur son temps, dans cette partie de ce qu'il dit, puisque, par exemple, les clubs de foot ne sont devenus qu'après cette interview, plus tard, 20 ans plus tard, des sociétés par action. Donc les sociétés par action, ce sont des entreprises. La plupart des clubs sont des entreprises. Là où, par contre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est que ce qu'il dit, il en parle en France. Or, ce qu'il dit n'est vrai qu'aux États-Unis. Les clubs qui cherchent à faire du profit sont les clubs des ligues nord-américaines. D'ailleurs, ils ne cherchent à faire que ça. Si en plus ils gagnent les play-offs, tant mieux. Mais s'ils ne gagnent pas les play-offs ou s'ils ne sont pas qualifiés en play-offs, l'essentiel, c'est de faire de l'argent. Par contre, les clubs dans le système non nord-américain, donc je vais l'appeler européen pour faire simple, leur objectif principal, ça n'est pas de faire du profit. Ils en font occasionnellement, mais en fait, beaucoup de clubs sont en déficit. Paris Saint-Germain, ça fait 30 ans qu'il est en déficit tous les ans. Donc il ne fait pas du profit, il ne cherche pas à en faire. Pourquoi ? Parce que le système, ça dépend du système de sport dans lequel on est.
Alors peut-être d'abord commencer par présenter ce système, en tout cas
oui. En
Europe.
Alors, si vous voulez, bon, dans les deux cas, on peut dire que c'est un système capitaliste du sport, mais il y a une différence entre le système américain et le système européen. Le système nord-américain, c'est une économie planifiée du sport. Toutes les règles sont fixées.
Planifiée capitaliste, c'est original.
Oui, moi j'ai même écrit socialiste. J'ai écrit un article où je dis c'est comme les anciens pays de l'Est. Alors on va peut-être pas parler du sport nord-américain, mais si vous voulez on peut y revenir. Alors en Europe, on a un autre système, qui est un système capitaliste, qui ressemble plus à une vraie économie de marché, mais pas pour des raisons idéologiques, pour la raison suivante. C'est que nous avons un système dit de ligues ouvertes, alors que les Américains ont des ligues fermées. Dans une ligue fermée nord-américaine, prenons la Major League Baseball, il y a 30 clubs, toujours les mêmes tout au long des saisons.
Donc on ne peut pas dégringoler.
On ne peut pas descendre en deuxième division parce qu'il n'y a pas de deuxième division. Donc ils jouent toujours entre eux. Et donc tout est planifié entre eux. Et donc l'entreprise de la Major League Baseball, ce n'est pas le club, c'est la ligue. Et les clubs sont des filiales, en quelque sorte.
Donc c'est comme
si c'était... Qui obéissent aux ordres centralisés de la ligue, qui est une sorte de planificateur central. Chez nous, on a un système différent parce qu'il y a, dans le système du sport européen, de ligue ouverte. Il y a une promotion et une relégation. Promotion des équipes qui ont gagné le plus de matchs. Les trois premiers montent en première division, quand on est en deuxième division en France. Et puis, il y a la relégation des plus ceux qui ont eu les plus faibles performances. Les trois derniers descendent en deuxième division. Et puis pareil, en première division, les premiers vont être qualifiés pour la Champions League ou la Ligue Europa, etc.
Mais alors, d'un point de vue économique, comment est-ce que...
D'un point de vue économique,
comment est-ce qu'une entreprise peut fonctionner si elle ne fait pas de profit?
Attendez, donc je termine là-dessus. Un club américain maximise son profit, point barre. Un club européen, il maximise ses victoires sur le terrain. Voilà. Parce qu'il cherche... S'il ne le fait pas, il risque d'être relégué et il n'a aucune chance d'être promu. Donc son existentiel, c'est de gagner des matchs sur le terrain. Donc il maximise les victoires. Comment il le fait? Bien, il dépense énormément d'argent en recrutement. D'où le marché des joueurs dont on parlera peut-être.
Ce qui veut dire que en Amérique du Nord, gagner n'est pas toujours ce qui maximise le profit.
Non. Et à la limite même, quand vous êtes en cours de saison dans la Major League Baseball et que vous êtes dans une équipe qui n'a plus de chance d'atteindre les playoffs. Il y a des équipes qui volontairement perdent des matchs parce que pour recruter la saison prochaine, il y a un ordre dans le recrutement. Le dernier classé de la saison dernière choisit le meilleur joueur, choisit en premier sur une liste des joueurs, donc prend le meilleur joueur. Le deuxième moins bien classé prend le deuxième meilleur joueur et le champion de l'année dernière, il prend le dernier joueur, donc potentiellement le moins bon joueur.
On a là un exemple de logique économique qui vient changer la logique sportive,
oui,
en tout cas s'y opposer.
Totalement, c'est une logique d'économie planifiée. Donc c'est du capitalisme parce qu'il y a de l'argent, beaucoup, mais c'est une économie planifiée capitaliste ou capitaliste socialiste n'a pas d'importance, c'est l'économie entièrement régulée, planifiée. Nous, en Europe, on a l'inverse. Les clubs cherchent à gagner des matchs. Pour cela, ils s'engagent dans d'énormes dépenses de recrutement des joueurs, puisqu'on ne gagne pas de matchs si on n'a pas Messi dans son équipe. Donc, on va avoir des très gros budgets joueurs. Et quand on a des très gros budgets joueurs, on a beaucoup de mal à faire du profit.
Alors ces joueurs, ils ont changé en tout cas leur rôle et l'image qu'on a d'eux a énormément évolué. Et on va entendre Nicolas Ksismartov du magazine SoFoot en parler dans Masse Critique sur France Culture le 6 juin 2010.
Si on regarde un peu l'histoire, notamment si on s'attache aux grands sportifs, aux grands footballeurs, ils ont un peu changé de statut. Ils sont passés du statut d'héros populaire, un peu mythologique, à celui de star. Et on remarque par exemple quelqu'un comme Lionel Messi, qui est une des grandes vedettes actuelles du football, footballeur donc à Barcelone et une des stars de l'équipe d'Argentine, qui est une des favorites de la prochaine compétition. Aujourd'hui, l'immense majorité de ses revenus viennent des droits à l'image. Et c'est plus uniquement son salaire qui lui permet de vivre. Par ailleurs, le football est particulièrement bien rentré en synergie avec les transformations de tout ce qui est storytelling, l'histoire des séries télé, parce que c'est saisonnier, parce que ça a des cycles, des drames, des rivalités, et c'est devenu un produit extrêmement fort quand il a fallu, pour la télé notamment, se mondialiser.
Alors on entendait plusieurs dimensions dans ce discours. Peut-être la première, à savoir le joueur est bien sûr pris dans une dimension qui est celle du marché du travail, mais il est aussi un produit.
Oui, tout à fait.
Dans une certaine mesure.
Bah oui, non, je pense qu'il est acquis pour un certain nombre d'économistes que le travail est une sorte de marchandise dans une perspective capitaliste. Donc ça n'est, les joueurs de foot n'échappent pas à cette dimension. Mais dans ce qu'on a entendu, il y a quelques autres dimensions sous-jacentes. Bon, l'idée que le marché est dérégulé, ils se vendent comme des marchandises sur le marché. L'idée qu'il est mondialisé, on l'a déjà évoqué. Mais il y en a une autre qui apparaît dans ce qu'il a dit sans qu'il l'ait dit vraiment. Et il a parlé de Messi. Alors Messi, c'est une manière d'évoquer le fait que le marché des joueurs de foot, mais dans les autres sports aussi, est un marché segmenté. Il y a un marché des superstars, il a utilisé plus ou moins ce mot, il y a un marché des superstars, donc dans lequel il y a Messi, Neymar, Mbappé, Ronaldo, etc.
Donc ça serait le marché primaire
économique. Ça serait le marché primaire au sens de la théorie de la dualité du marché du travail. Et puis il y a un marché secondaire, où il y a 80% des joueurs, ou 90% des joueurs sont sur le marché secondaire. Et donc, il y a des niveaux de rémunération, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de droit à l'image qui a été évoqué, qui n'ont rien à voir avec, il y a un marché qui est nettement en millions d'euros.
Alors qu'on va peut-être définir dans ses particularités.
Marché primaire, on est au-dessus d'un million d'euros. De quoi qu'on parle, on est au-dessus du million d'euros.
Il est lié aussi aux performances qui sont
oui,
élevées
évidemment,
aussi.
Bah évidemment. Et il est lié à une autre chose dont je dirai un mot après, le monopole du joueur sur ses talents. Mais pour en finir avec le marché secondaire, pour aller vite, le marché secondaire, lui, il est en dessous du million d'euros. Il est en dessous du million d'euros.
Donc il concerne tous ces joueurs professionnels.
Oui, la plupart sont dans ce marché secondaire. Il leur arrive d'être au chômage. Il leur arrive de devoir jouer en deuxième, troisième ou quatrième division. Donc en plus, il y a un déséquilibre sur ce marché secondaire. Il y a un excès d'offres de joueurs par rapport à la demande des clubs. Les clubs savent qu'ils trouveront toujours un arrière qui vient de Montpellier ou n'importe où. C'est pas un problème.
Donc les mécanismes économiques sont inversés sur les deux marchés.
Le marché secondaire est complètement bien approvisionné. Il est en excès d'offres.
Saturé. Okay.
Par contre, le marché primaire des superstars, lui, il est en excès de demande. Pourquoi ? Parce que il n'existe au monde qu'un seul joueur qui s'appelle Messi et qui a les talents calibrés de Messi. Par conséquent, ça met Messi en tant qu'individu dans une situation de monopole sur la vente de ses talents. En fait, c'est pas lui, c'est son agent de joueur, en l'occurrence son père, qui vend les talents. Mais il est en situation de monopole. Il n'y a qu'un Messi. C'est un joueur absolument non substituable. Même si je mets Neymar à la place de Messi, il rend pas exactement les mêmes services. C'est aussi une superstar, mais pas exactement la même. Et donc, ces joueurs sont demandés par tous les clubs.
Est-ce que
potentiellement par tous les clubs. Sauf qu'il n'y en a qu'une dizaine de clubs qui peuvent se le payer, donc c'est eux qui sont en concurrence pour avoir Messi. Et Messi, il choisit le club où il veut aller.
Est-ce que cette segmentation, elle est valable pour l'ensemble du monde du sport? Est-ce que le cyclisme, est-ce que l'athlétisme, est-ce que la Formule 1 sont soumis à cette même segmentation
en
deux marchés?
En grande partie, bon, c'est beaucoup plus net dans les sports d'équipe. Ça soit beaucoup mieux parce qu'au sein d'une même équipe, vous avez le tâcheron qui gagne 10 ou 20 fois moins que la superstar ou 50 fois moins que la superstar. Dans les équipes cyclistes, ça existe aussi. Qui est-ce qui gagne le Tour de France? À une époque donnée, c'était Lance Armstrong. Mais c'était pas Lance Armstrong tout seul. C'était Lance Armstrong aidé de 9 coéquipiers qui ont pas du tout les mêmes salaires, etc. Et c'est pour ça que dans le cyclisme, la pratique est qu'à l'arrivée du Tour de France, le vainqueur, enfin, ou le leader de chaque équipe, donne ses gains à ses équipiers. Il y a un partage des gains avec les équipiers parce que ils ont bossé comme des fous pour que Armstrong arrive le premier.
Alors si on inverse la logique et si on prend le système économique, est-ce que c'est le système économique capitaliste mondialisé des années, disons, 90, qui a créé ces joueurs superstars? Est-ce qu'il a pu les faire émerger parce que justement, ils se sont constitués en un marché monopolistique d'une certaine manière?
Oui et non, parce que des superstars, il y en avait avant. Par exemple, il y avait Di Stefano, Coppa, dans le foot, Di Stefano, Coppa, Jonquet, tout ça étaient des superstars. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas eu cette submersion totale du foot et du sport en général par l'argent.
Donc c'est le développement du marché du sport en tant que tel, c'est-à-dire du public aussi?
Non, simplement c'est l'absorption du sport par l'économie de marché capitaliste, qui n'était pas le cas quand moi je jouais au foot. Moi je jouais du temps de Coppa, tout ça. Les mauvais joueurs comme moi, on gagnait rien. Et les bons joueurs, ils gagnaient de l'argent. Coppa, il s'est acheté des magasins, je sais pas quoi. Il est devenu riche pour son époque. Mais il n'était pas milliardaire. Il n'était pas milliardaire, ce que sont des gens comme Messi, Ronaldo, etc.
Alors comment est-ce que le marché du football, par exemple, s'est dérégulé petit à petit? Est-ce que c'est en raison du type de législation?
Non, il y a une date très précise qui est décembre 1995.
C'est l'arrêt Bosman.
C'est l'arrêt Bosman. Donc pour le foot, c'est l'arrêt Bosman. Et après, dans les années qui ont suivi, il y a eu l'arrêt Malaja, l'arrêt Kolpak, l'arrêt Chimutenkov, qui ont étendu vers l'or. Parce qu'au début, le Bosman, c'est que pour l'Union européenne.
Il faut nous expliquer ce que c'est que l'arrêt Bosman.
Oui. Alors l'arrêt Bosman, c'est Jean-Marc Bosman était un joueur français qui jouait en Belgique et qui finalement n'était pas aligné dans les matchs. Donc il voulait s'en aller, il voulait rentrer à Dunkerque, qui était son club d'origine, pour jouer. Et le propriétaire du club belge a dit non, parce qu'à l'époque, il y avait une clause restrictive consignée dans son contrat qui était « on ne bouge qu'avec l'accord du dirigeant du club, qu'avec l'accord du patron, si vous voulez, qui était le propriétaire du club ». Et donc Bosman a considéré que c'était pas bien, d'abord. Et puis il a vu des juristes qui lui ont dit « mais c'est contraire aux règles de mobilité ». De l'Union européenne, qui est l'article, je ne sais plus combien, 47 ou 58, du traité de Rome. Et donc, il a gagné devant les tribunaux belges, d'abord. Puis, le propriétaire a fait appel. Donc, c'est monté en Cour de justice européenne à La Haye. Et il a encore gagné en appel. Et donc, lui, il a pu bouger et revenir à Dunkerque. Mais pour lui, il a été banni du football par tout le monde. Donc, ce n'était pas une bonne solution pour lui. Mais par contre, ça a mis fin à la possibilité des propriétaires de retenir les joueurs en fin de contrat. En fin de contrat, tout joueur est libre aujourd'hui de bouger. Et deuxièmement, ça a mis fin aux règles dans le football qui, par exemple, interdisaient d'aligner 11 joueurs étrangers sur le terrain. On avait le droit d'en aligner 3, puis 5.
Il y avait une obligation
d'avoir au moins 6 joueurs
qui avaient la nationalité.
Oui, voilà. Et maintenant, avec l'arrêt Bosman, ça a sauté.
Donc liberté de circuler, plus grande liberté dans la possibilité de composer les équipes.
Oui, et donc vous avez une mondialisation de ça en dehors du foot, en dehors de l'Europe. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'accord de Cotonou en 2001, qui étend la jurisprudence Bosman, Malaja, etc., à tous les pays d'Afrique, d'Asie et du Pacifique. Donc ça veut dire que tous les pays du monde sont sur un marché mondial des joueurs. Donc on a une mondialisation totale du marché qui a commencé en 95 et qui a achevé en 2001.
Alors est-ce qu'il y a des limites à cette dérégulation? Est-ce que de l'autre, il y a des instances qui édictent des règles
en matière de
droit du travail? Bon, hein.
Ça ne rend pas heureux toutes les ligues sportives. Par exemple, le rugby français à la fois a bénéficié de cette dérégulation, puisque vous voyez maintenant jouer en top 14 des tas de joueurs néo-zélandais, australiens, qui sont de très bons joueurs, qui viennent jouer en France. Mais en même temps, le rugby est peut-être plus conscient que le foot du fait que si vous faites jouer avec des étrangers dans votre championnat, vous avez un problème avec votre équipe nationale. Par exemple, l'équipe de rugby nationale en ce moment, elle marche pas terrible, hein. Elle est plutôt même mauvaise, quoi, pour tout dire. Et certains attribuent ce fait à la situation qui est que dans les meilleurs clubs de France jouent principalement des étrangers. Où les vedettes sont des étrangers. Et donc, on a un problème quand le sélectionneur national veut sélectionner des joueurs, s'il veut prendre les meilleurs de ceux qui jouent en France, ils sont pas français. Alors, c'est à telle enseigne que le rugby a accepté qu'on puisse sélectionner en équipe de France des joueurs qui ne sont pas français.
Alors, est-ce qu'on peut dire que d'une certaine manière, le sport est un capitalisme encore plus dérégulé que le reste du marché du travail, puisque la liberté de circulation des personnes,
oui.
mais aussi...
Oui. Ah ben la liberté de circulation pour travailler est totale en Europe. On ne peut pas vous empêcher. Si vous avez envie d'aller travailler en Belgique...
Mais elle n'est pas mondialisée.
On ne peut pas vous empêcher. Par contre, en dehors de l'Europe, ça se complique, en effet. Et si vous n'êtes pas européen et que vous voulez venir en Europe, ça se complique aussi. Mais quand vous êtes citoyen européen, vous bénéficiez d'une mobilité totale à 100% si vous changez de travail.
Alors, la mobilité, dans le football, ça s'appelle le transfert. On va oui. entendre Jennifer Mandelevitch, agent qui va en parler dans le Grain à Moudre sur France Culture, qui en parlait le 9 septembre 2015.
Aujourd'hui, un agent gagne le mieux sa vie quand il fait un transfert. Alors,
Vous avez intérêt à faire bouger vos joueurs chaque saison.
Ou à les prolonger, puisque vous touchez aussi une commission quand votre joueur prolonge dans son club. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Effectivement, le fait de changer de club, ça lui fait prendre de la valeur. Les salaires augmentent et comme nous sommes payés au pourcentage sur les salaires bruts négociés, il ne faut pas réfléchir bien longtemps pour savoir qu'il est de l'intérêt de l'agent de faire bouger son joueur. Maintenant, il faut aussi relativiser et se dire un plan de carrière, il est long et si on fait n'importe quoi, et on en a vu beaucoup, notamment des joueurs africains qui sont passés par un club turc, puis l'année d'après un club dans le Golfe, puis l'année d'après revenus dans un club de seconde zone à Malte, on se rend vite compte que la valeur du joueur, au lieu d'augmenter, elle faiblit. Donc c'est un petit peu le souci. Maintenant, effectivement, quelqu'un comme Jorge Mendes, et Jorge Mendes se fait très souvent mandater par les clubs et non pas par les joueurs, ce qui fait que sa commission n'est pas basée sur les salaires du joueur, mais c'est un taux fixe ou un pourcentage carrément sur le prix de transfert. Et là, ça peut monter très haut. Effectivement, Jorge Mendes a tout intérêt à faire bouger les joueurs et rapidement.
Qu'est-ce que vous diriez de ce qui vient d'être dit, justement, le plan de carrière des joueurs? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur revenu? Qu'est-ce qui compose leur revenu? On a vu que dans le revenu, il y a le salaire, mais aussi les transferts, les indemnités. C'est relativement complexe.
Il faut être précis. Les primes de transfert ne sont pas touchées par les joueurs.
Mais donc, par les agents.
Attendez. Un joueur, Messi, est transféré de Barcelone vers un prochain club. Qu'est-ce qui se passe? Messi, son agent de joueur, va négocier un salaire pour Messi. Donc Messi, il va toucher un salaire à 30 ou 50 millions par an. Voilà. Donc ça, c'est pour Messi. Après, Messi, s'il est transféré en fin de contrat... Je n'ai plus rien à dire. Si ce n'est la chose suivante, c'est que s'il est transféré avant la fin du contrat ou en fin de contrat, il y a une somme qui s'appelle la prime de transfert qui est versée par le club qui accueille Messi au club que quitte Messi. Voilà. Quand on dit Mbappé a été transféré pour 220 millions d'euros, il n'y a aucun de ces euros qui ne va dans la poche de Mbappé. Ça va d'un club à l'autre. Donc les primes de transfert, ça ne va pas aux joueurs.
Sont des flux d'argent.
Voilà, ce sont des flux d'argent entre les clubs. Alors même si on rentre dans les détails techniques, comme Mbappé a été formé dans d'autres clubs avant Paris Saint-Germain, etc., il y a une répartition de la prime de transfert qui vient pour l'essentiel au club qui accueille, mais il y a une petite partie qui est 5% qui est répartie entre tous les clubs qui ont participé à la formation de Mbappé. C'est pour ça qu'il y a des clubs de banlieue parisienne qui sont pas si pauvres que ça, parce qu'ils ont eu Mbappé quand il avait 13 ans. Voilà. Donc, ça, c'est pour la prime de transfert. Ça n'entre pas dans la poche des joueurs. Okay.
Qu'est-ce qui rentre dans la poche des joueurs?
Dans la poche des
joueurs.
Outre
leur salaire.
Leur salaire et puis tous les revenus d'image, pour faire bref, d'image, mais je sais pas quoi, vous les invitez à la télé, ils vont demander à être payés. Moi, je suis venu gratuitement, mais eux, ils viennent pas gratuitement parler avec vous. Okay. Donc, tout un tas d'autres revenus.
Sur France Culture aussi. Hein.
Oui, peut-être. Mais voilà, donc ils ont des revenus annexes, mais souvent les annexes sont aussi gros, voire plus gros que le salaire de départ. Voilà. Et le dernier point, c'est dans tout cela, il y a aussi un autre individu qui reçoit de l'argent, c'est l'agent de joueur. Comme la dame qui parlait, en général, le taux moyen de rémunération, c'est 10% de la prime de transfert. Donc, évidemment, les agents ont intérêt à ce que les joueurs bougent. Si les joueurs ne bougeaient pas du tout, il n'y aurait pas de métier d'agent de joueur.
Vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers. Et comme tu ne remarches jamais à la peine, l'équipe de Reims, l'équipe de France doit gagner. Vas-y Justo, vas-y Justo, vas-y Fontaine, qu'on soit mené ou dominé, tu dois marquer. Comme en Suède, un but qui fait crouler la reine, et dont toi seul as le secret pour le signer. Vas-y Justo, vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le porte-drapeau des canonniers.
Écoutez France Culture, Entendez-vous l'écho, par Maïlys Bessery.
Vas-y Justo, vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le meilleur buteur du monde entier. Porté par le courant, le flot des voix humaines, conduit toujours le ballon au fond des filets. Vas-y Justo, du gauche, du droit ou de la tête, tu te détends au bon moment, et il y est. Porte bonheur, le supporter à la trompette te crie merci, on n'est pas prêt de t'oublier. Vas-y Justo, vas-y Justo, vas-y Fontaine, car c'est toi le meilleur buteur du monde entier.
Vas-y Justo,
vas-y Fontaine, vas-y, allez, vas-y Fontaine.
Une définition du TPO, de la propriété par les tierces parties, c'est donc la propriété par des tierces parties, c'est-à-dire des parties autres que des clubs sportifs, de droits économiques de joueurs. Donc ça n'a rien à voir avec les droits fédératifs, c'est pour ça que j'y reviens. Donc ce sont les droits économiques. En aucune manière, les investisseurs ne peuvent être propriétaires de droits fédératifs, ce sont uniquement les clubs. Mais par contre, les droits économiques, ils prennent de la valeur lors des transferts, et les investisseurs s'arrangent avec les clubs pour avoir un intérêt au futur transfert du joueur, selon un pourcentage qui est prédécidé, qui n'est pas standard. Ce sont des discussions en degré à gré entre les clubs et les investisseurs. Et donc les clubs qui font appel à ces investisseurs le font certainement parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter des joueurs, mais aussi souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de survivre. Et donc les clubs en grosse difficulté, comme Valence, comme Porto à l'époque, comme beaucoup de clubs brésiliens, font appel à des investisseurs qui leur amènent du cash en contrepartie de leur léguer un futur droit sur des indemnités de transfert qui viendront.
Alors, on entendait l'économiste Jean-François Brocard dans Le Grain à Moudre du 9 septembre 2015. Vladimir Andreev, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ce tissage entre investisseurs, droits des joueurs? C'est très complexe d'un point de vue économique,
oui,
ce qui se passe sur le marché du foot.
Pour parler du TPO en deux secondes, premièrement, c'est une très mauvaise solution. À mon avis, c'est le signe que le club n'est pas très bien géré. Parce que le club a d'autres moyens que la TPO, ou le TPO, je ne sais plus comment il faut dire, pour collecter des fonds. S'il a de bons sponsors, il n'a pas besoin de faire appel à un investisseur tiers. S'il a réussi à attirer Abramovich dans son capital, il n'a pas besoin de TPO.
Il disait que ça concernait des clubs qui justement n'avaient pas les moyens de grands
joueurs.
C'est
des clubs qui sont en fait en grande difficulté et qui utilisent ce montage, on va dire, pour continuer à fonctionner. Mais bien sûr, avec ça, ils ne vont pas gagner la Champions League, etc. Donc en fait, il y a d'autres formules que cela pour financer les dépenses importantes des clubs, qui sont les dépenses sur les joueurs, on en a parlé, donc qui sont plutôt de trouver un bon actionnaire, puisque ce sont des sociétés par action. La meilleure solution...
Les clubs sont des sociétés par action.
Eh oui. Donc il faut avoir le meilleur on a comme actionnaire et le plus tranquille on est, on va dire ça comme ça, financièrement du moins, si on est bien géré. Donc un premier problème, trouver un bon actionnaire, sinon trouver d'autres sources de financement, donc un ou plusieurs bons sponsors, voilà. Et troisièmement, si en plus de tout ça, il faut être bien géré. Parce que, par exemple, Paris Saint-Germain remplit les deux premières conditions. Il y a un propriétaire qui est qatari, il y a un propriétaire qatarien qui apporte beaucoup d'argent, il y a des sponsors qui apportent beaucoup d'argent, sauf que le PSG est en permanence en déficit.
Alors vous expliquez ça comme quelque chose de structurel au début de l'émission, à savoir...
parce que le Paris Saint-Germain a comme objectif de gagner la Champions League. Pour ça, il doit acheter les meilleurs joueurs du monde, c'est ce qu'il essaye de faire, du moins. Il n'a pas pour l'instant, ni du côté des actionnaires, ni des sponsors, le budget qui lui permet de faire ça. Donc il dépasse son budget, il est menacé de sanctions au titre du fair play financier actuellement. Il a déjà été sanctionné une fois, il risque de l'être une deuxième fois. Ce qui est un signe de mauvais management, ce mot n'est pas tout à fait adéquat. S'il veut gagner, il est obligé de recruter. Donc s'il recrute beaucoup, il est obligé d'avoir de grosses recettes. Mais je vous ferai remarquer, il ne recourt pas au TPO. Hein. Il essaye de trouver des rallonges de l'actionnaire qatarien, ou davantage de sponsors, ou davantage de ventes de maillots, de t-shirts, de ce qu'on appelle merchandising.
Alors justement, pour revenir sur ce point, comment est-ce que les structures financières des clubs, qui sont gérées comme des entreprises et des sociétés par action, elles se sont adaptées justement à ces contraintes, à la fois de la hausse phénoménal des salaires,
oui, tout à fait,
des charges et des coûts salariaux qui l'accompagnent. Comment est-ce qu'elles ont pu s'y adapter ? Alors, il y a d'un côté, vous parliez des financements des investisseurs. Il y a de l'autre, l'appareil médiatique et le merchandising. Peut-être expliciter quels sont ces systèmes de revenus ?
Alors, le système de revenus des clubs, donc j'en ai évoqué quelques-uns en réponse à la question précédente, mais je n'ai pas évoqué le plus important. La source de revenus la plus importante aujourd'hui des clubs de foot, notamment, mais dans d'autres sports aussi, c'est les revenus de la télévision. Ce qui permet, en fait, à beaucoup de clubs de rester à flot et de ne pas être dans des gros déficits comme le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils bénéficient d'une redistribution des droits de télévision. C'est pour ça que les clubs de Division 2, par exemple, en France, vivent relativement bien, parce qu'ils bénéficient de droits de télévision qui sont attirés, en fait, par les clubs les plus beaux clubs, comme Paris Saint-Germain, Monaco, etc. Mais comme il y a une redistribution à l'intérieur de la Ligue entre les 44 clubs de première et deuxième division, un club de deuxième division, s'il est correctement géré, n'a pas trop de gros problèmes financiers.
Donc là, c'est l'adéquation du sport à participer à cette société du divertissement, du spectacle, qui est rentrée dans un autre marché, que celui du sport lui-même.
Il y a un économiste américain qui a écrit un jour, finalement, à la limite, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de stades. Les stades sont devenus des studios de télévision. Il suffit de vendre nos matchs chers aux télés et tout va bien. Alors, c'est la source essentielle de revenus. Après, vous avez bien sûr celle que j'ai déjà citée, le sponsorisme, qui est une deuxième source assez importante de revenus. Il y a une source de revenus qui était importante autrefois, et quoi que l'on en dise aujourd'hui, elle est devenue, par exemple, dans le football français, de l'ordre de 10% des revenus des clubs, c'est les recettes au guichet. Donc on dit toujours, le Paris Saint-Germain va attirer des tas de gens dans le stade. C'est 10% au maximum de son budget, alors que la télé, c'est 50%. Alors qu'est-ce que j'ai oublié ? Le merchandising, c'est on va vendre des produits à l'effigie du PSG.
Voilà. Et l'industrie ? Produits dérivés ?
Oui, alors ça va pas direct. Enfin, l'industrie, qu'entendez-vous par industrie ?
Je pense aux maillots, à tous les produits qui vont se décliner.
Oui, l'industrie des produits sur lesquels on met le nom du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a une source de revenus qui a totalement disparu, qui sont les subventions publiques, qui sont d'ailleurs quasiment interdites par l'Union européenne depuis 1999, sauf si le club répond à des exigences absolues de formation de ses joueurs. Dans ce cas-là, il peut avoir des toutes petites subventions publiques, alors que du temps de Copa, c'était parfois la moitié du budget du club, les subventions publiques. Ça correspond à la dérégulation du foot ou du sport.
Et à ce tournant libéral qu'on a pu connaître dans d'autres secteurs de l'économie. Qu'est-ce qu'on peut dire des effets pervers, peut-être, de ce système d'hyper-dérégulation ? Est-ce qu'on peut dire que ça a changé, dans une certaine mesure, la pratique des sports ? En tout cas, ça a créé une sorte de sélection entre les sports. Il y a ceux qui vont être médiatisés, ceux qui le sont moins. C'est peut-être déjà un effet ?
Alors, le système de redistribution des droits de télé vise à essayer de limiter cet effet-là. Alors, l'effet en question, c'est celui-ci. C'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de sports, le foot est tout à fait exemplaire, mais c'est vrai ailleurs aussi, dans beaucoup de sports, les performances sportives sont strictement indexées sur les revenus. C'est-à-dire, si vous me donnez la possibilité de donner trois noms de champion d'Italie, je suis sûr de le trouver. Parce que je vais aller regarder les trois plus gros budgets et le vainqueur du championnat est dans les trois plus gros budgets.
Et c'est donc pareil, il y a une corrélation absolue entre les budgets.
Elle n'est pas parfaite, mais il y a une corrélation extrêmement forte entre les disparités de revenus et les disparités de performance sportive. Ce qui veut dire que ce qu'on appelait autrefois la glorieuse incertitude du sport est devenue absolument pas incertaine. Voilà, on peut prévoir facilement. Moi, je prévois les résultats des Jeux Olympiques avec un modèle. Mais pourquoi ? Parce que ça, la tâche m'est facilitée par le fait que c'est il y a une très forte liaison entre la victoire sportive et le fait d'avoir le plus gros budget, les plus gros moyens financiers ou matériels, comme vous voulez.
Donc des modes de calcul sont possibles, de probabilité, oui, qui permettent de dire à l'avance quelles seront
le nombre de médailles. Du coup, on peut probabiliser plus facilement qu'avant les victoires. Et bon, les médailles, c'est l'olympisme, c'est un petit peu différent. Mais dans les championnats de foot, de basket, etc., si vous lisez en début de saison la hiérarchie des budgets, eh bien, vous avez quasiment le classement à l'arrivée. Enfin, je dis quasiment parce que la corrélation n'est pas parfaite. Mais vous avez une assez bonne idée de qui va être dans les premiers du championnat, qui va être dans les derniers du championnat et qui va être au milieu du classement.
Que dire de la sélection des sports ? Il y a des sports qui sont jugés télégéniques, en tout cas qui ont inondé le marché du relais médiatique, et d'autres non.
Ah ben, j'ai poussé à l'extrême votre remarque qui est juste. Mais à l'extrême, c'est celui-ci. Enfin, il faut dire la chose suivante. La télévision a un sport, le foot. Point barre.
Et le rugby,
tennis... Toutes les chaînes de télévision au monde espèrent, alors ne parviennent pas toujours, mais espèrent retransmettre du foot. Du foot, du foot, du foot, du foot. Et c'est pour ça que le foot représente la moitié de l'économie mondiale du sport. Hein, parce qu'il attire la moitié des revenus qui coulent dans le sport, va vers le foot. Et un des canaux par lesquels ça coule, c'est justement la télévision, les droits de télévision.
Alors la question du sport, elle se pose aussi, on le disait, quant au marché du travail. Quand on parlait des effets pervers, il y a certains effets pervers qui ont pu être posés, notamment dans le marché de l'industrie, des articles de sport notamment, à travers des grandes sociétés emblématiques de marques de sport. Je pense à Adidas et à Nike.
Tout le monde connaît la société Nike, et tout le monde sait ce qu'elle fabrique. Mais en réalité, juridiquement, la société Nike ne fabrique pas de chaussures et elle n'a jamais fabriqué la moindre chaussure. La société Nike, comme dit son fondateur Phil Knight, c'est une société qui est entièrement fondée sur une marque, c'est-à-dire qu'elle commercialise des chaussures, mais qu'elle les fait fabriquer. Alors elle s'adresse à des sous-traitants, comme vous l'avez dit, des Sud-Coréens, des Taïwanais, qui eux-mêmes ont des usines dans certains pays où la main-d'œuvre est très bon marché. Et c'est pour Nike la Chine, le Vietnam, l'Indonésie aussi. Et ça représente entre 300 et 500 000 travailleurs qui fabriquent ces chaussures, généralement le plus souvent des femmes, et des femmes en général de moins de 24 ans. Alors, ce qui est en cause, qui a été en cause fondamentalement dans cette affaire, et on connaît bien le problème de la redistribution du travail à l'échelle mondiale, c'est cette pratique de sweatshop, hein, ces boutiques de sueur, c'est-à-dire ces ateliers dans ces pays où non seulement le salaire est très faible, le salaire minimum légal est déjà extrêmement faible et souvent il n'est pas respecté, et les horaires de travail sont absolument étourdissants, c'est 12 heures par jour, 80 heures semaine, des heures supplémentaires obligatoires, et aussi des enfants qui travaillaient dans ces usines, des mauvais traitements, hein, y compris du contrôle de qualité qui se fait avec des coups.
Schlag.
Oui, et des problèmes, notamment respiratoires dans l'industrie de la chaussure, hein, des problèmes respiratoires très graves pour les travailleurs, donc des conditions de santé et de sécurité pas du tout respectées.
Vladimir Andreev, on entendait le philosophe du droit Benoît Friedman dans Le Bien Commun sur France Culture le 26 mai 2007. Alors on voit là que les dessous du sport, c'est aussi ça, c'est pas simplement les trucages, c'est pas simplement les matchs achetés à l'avance, c'est aussi tous ces dessous de l'industrie, des articles de sport, de tout ce qui a pu être décliné dans le merchandising notamment.
Oui, alors je vais peut-être rectifier un petit peu les propos de tout à l'heure, il se trouve que je connais bien Nike. Nike avait 75 000 emplois dans la production aux États-Unis de chaussures et d'articles de sport dans les années 70. Donc, quand il a été dit que Nike n'avait jamais d'emploi, ben, c'est faux. Donc, et ils ont licencié une grande partie de ces 75 000 employés aux États-Unis pour signer des contrats de sous-traitance en Asie du Sud-Est, comme il a été cette fois-ci justement indiqué. Pendant les années 80-90, les conditions de travail chez les sous-traitants de Nike, pas chez Nike lui-même, parce que Nike est devenu ce qu'on appelle en anglais une « hollow corporation », ils ne produisent plus rien que des services commerciaux et financiers. D'accord ? Aux États-Unis, ils doivent produire encore 2-3 chaussures par-ci, par-là, mais pratiquement rien. C'est symbolique. Et donc, la production se fait principalement en Asie du Sud-Est. Et là, en effet, les conditions de travail décrites sont bien pires que ce qui a été dit. C'est pas des femmes de moins de 24 ans, c'est des femmes de moins de 15 ans qui étaient employées pour $1 par jour et un verre de lait. Donc c'est vraiment pire que ça, on peut pas trouver. Ça a été à ce point terrible qu'il y a eu une campagne publicitaire de anti-Nike qui s'est développée en 1997. Bon, la devise de Nike, c'est « just do it ». Et la campagne publicitaire était « just don't do it ». Surtout ne faites plus, ne faites pas. Et donc, les ventes de Nike ont baissé en 97 suite à cette campagne militante anti-Nike. Qu'a fait Nike ? Il s'est adressé au Bureau international du travail à Genève et avec d'autres producteurs d'articles de sport qui étaient tout à fait d'accord pour cette démarche, ils ont essayé de mettre au point un code interne à la Fédération internationale des articles de sport, qui est ce qu'on appelle en anglais un gentleman agreement, c'est-à-dire un code, mais qui n'est pas d'application absolument obligatoire.
C'est un code éthique.
Voilà, c'est une sorte de ligne de conduite. C'est un peu plus qu'éthique, ça engage un peu plus, mais une ligne de conduite que Nike a cherché à faire passer à ses sous-traitants. Bon, Nike n'est pas tout blanc dans cette affaire, mais les grands responsables, le gros problème, c'était les sous-traitants sri-lankais, pakistanais, indonésiens, qui pratiquaient les conditions de travail qu'on a indiquées. Et donc, Nike, Adidas et tout ça sont aujourd'hui solidaires, ça fait près de 20 ans, pour essayer d'endiguer ces conditions de travail déplorables. Alors, si on fait le bilan 20 ans après, en partie, ils y ont réussi. Il y a sans doute plus beaucoup de jeunes femmes de moins de 15 ans à $1 et un verre de lait qui travaillent chez leurs sous-traitants. J'ai pas été visité sur place. Je ne suis pas certain que les conditions de travail, etc., se soient alignées sur le niveau mondial pour autant.
Qu'est-ce qu'on peut dire de manière globale des radars qui entourent le monde du sport? On a le sentiment que le marché du sport est une sorte de versant aigu du capitalisme et de ses excès en matière de droit du travail notamment, mais aussi parce qu'il révèle des fortes inégalités de revenus, des fortes concentrations. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire des radars sportifs ou des institutions?
Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par radar, mais juste pour finir sur le point précédent, à juste titre, on peut dire que Nike est représentatif d'une certaine forme de capitalisme. Mais il n'y a pas que Nike, parce que où sont les sous-traitants dont on parlait, la pakistanais, etc. Ils ne sont pas exactement au Pakistan ou au Sri Lanka ou en Indonésie. Ils sont dans ce qu'on appelle une zone franche, localisant en Indonésie ou au Pakistan. Et qu'est-ce qu'une zone franche? C'est une zone de non-droit, d'une certaine façon, puisque le droit de la concurrence ne s'y applique pas. Le droit du travail qui prévaut au Pakistan ne s'applique pas dans la zone franche. D'autres droits concernant les travailleurs, salaire minimum ou je sais pas quoi, ne s'appliquent pas dans la zone franche. Sauf que si vous allez dans une zone franche pakistanaise, vous allez rencontrer des sous-traitants de Nike, mais vous allez rencontrer des centaines d'autres entreprises. Donc ça n'est pas propre à l'industrie du sport. L'industrie du sport est représentative simplement d'un certain nombre de firmes multinationales qui ont utilisé ce mode de délocalisation dans les zones franches.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces effets pervers, y compris sur des pays en voie de développement, cette utilisation finalement, cette dérégulation et cette globalisation qui a permis au sport, peut-être plus qu'à d'autres secteurs, de bénéficier des possibilités de chacun des territoires?
Oui, ça, bon, il se trouve que par ailleurs, j'enseigne sur les firmes multinationales. Bon, les firmes multinationales sont les firmes les plus, celles qui sont les plus capables de contourner les régulations et éventuellement les règles de droit, qui sont plus strictes que les régulations. Bon, il y a des firmes dans le monde qui sont capables de contourner ça. C'est les 2000 plus grandes multinationales du monde. Nike doit en faire plus ou moins partie. Adidas également. Donc ça n'a rien de surprenant. Vous êtes en train de me faire réciter un truc sur le capitalisme. Bon, mais qui est pas ça n'a rien de spécifique à l'industrie des articles de sport. Il y a des firmes qui ont, je sais pas quoi, dans le textile, il y a bien plus d'entreprises textiles qui ont délocalisé dans des conditions encore pires que celles de Nike, que ce qu'on a dit pour Nike.
Une dernière question, dans ce qui concerne les affaires, il y a un certain nombre d'affaires d'argent qui ont justement atteint le milieu du sport. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de leur impact? Est-ce que c'est la même chose que dans les milieux d'affaires en général? Est-ce que le sport a connu aussi des rebondissements particuliers?
Vous voulez dire des scandales financiers?
Absolument, oui.
Oui, alors des scandales financiers, il y en a dans le sport comme il y en a dans le reste. Mais bon, il faudrait qu'on ait beaucoup de temps. L'ouvrage que je suis en train d'écrire en anglais essaie de faire une catégorisation, justement, de ce genre de distorsion financière dans le sport. Bon, par exemple, je vais prendre la corruption. Qu'est-ce que l'on corrompt dans le sport? Eh bien, on peut corrompre des joueurs en vue d'un certain résultat. Match truqué, paris sportif, on revient au début de l'émission. On peut corrompre l'arbitre, plus ou moins dans le même but. Mais j'ai donné d'autres exemples. Je peux corrompre quelqu'un parce que je suis un footballeur, je suis président de mon petit club, je sais pas quoi, mais je voudrais devenir président de la Fédération française et peut-être ultérieurement président de la FIFA. Bah, si je veux y arriver, il faut que j'arrose un peu, quoi. C'est clair. On n'arrive pas président de la FIFA simplement en serrant des mains, ok? Autre cas. Alors, je vais prendre un cas qui est absolument vérifié juridiquement. Il y a de la corruption, donc des scandales financiers entourant l'attribution de grands événements sportifs à des villes ou à des pays. Alors, on parle beaucoup de la Russie, du Qatar pour le foot en ce moment, mais ça n'est pas la chose jugée. Par contre, il y a un événement qui est une chose jugée, c'est l'attribution des Jeux Olympiques d'hiver à Salt Lake City. En 2002, si je ne m'abuse, où là, la chose a été jugée, puisque suite à un jugement interne au CIO, ils ont viré 9 membres du CIO. Ils les ont renvoyés parce qu'ils étaient corrompus. Hein, donc, et c'était des gars qui vivaient de prébendes et de pots de vin, etc.
C'est l'heure des nouvelles de l'écho. Mounia Van de Castel, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Le chiffre du jour.
Eh bien, c'est 100 comme 100 millions. Et c'est la somme en euros qui correspond au revenu annuel en salaire et droit à l'image que toucherait la superstar argentine Lionel Messi, selon des révélations d'un consortium de journalistes d'investigation, dont Mediapart. Alors, ce consortium dit avoir mis la main sur une version provisoire des contrats en négociation entre le clan Messi et le club catalan, rédigé en juin 2017. Or, le quintuple Ballon d'Or, qui a récemment prolongé son contrat au FC Barcelone, n'a officiellement signé son contrat que le 25 novembre, après un long bras de fer, de quoi être tenté de penser, comme le souligne Mediapart, que le contrat définitif est au moins aussi avantageux que celui du 30 juin.
C'est-à-dire ?
Eh bien, selon les termes de ce contrat, la pulga, la puce, hein, que lui vaut sa petite taille, son surnom, doit toucher un revenu annuel fixe de plus de 70 millions d'euros, donc 85% de salaire et 15% de droit à l'image, auquel s'ajouterait une prime de signature de 63 millions d'euros. Et c'est assez savoureux, noter un bonus de loyauté, c'est-à-dire 70 millions d'euros qu'on lui donne en plus s'il ne quitte pas le club avant la fin de son contrat en 2021. Car apparemment, et c'est une autre révélation du consortium à l'origine des Football Leaks, l'Argentin aurait déjà été approché par le grand rival madrilène, le Real, du portugais Cristiano Ronaldo, qui est le joueur le mieux payé du monde, mais il arrive juste derrière Messi en termes de vente de maillots dans le monde.
En parlant de loyauté, le fisc espagnol enquête de potentiels salaires déguisés.
En effet, d'après le journal espagnol El Mundo, le fisc espagnol chercherait à savoir si le FC Barcelone aurait versé des salaires déguisés à la fondation de Lionel Messi. Le quotidien qui a eu accès aux documents des Football Leaks affirme en effet que le Barça a versé au moins 12 millions d'euros à la fondation de Messi entre 2010 et 2016. Alors lors d'une première période, période, entre 2010 et 2013, le club catalan lui aurait fait des dons, lui permettant de s'appliquer une déduction fiscale de 35%. Le fisc espagnol se demande donc si ces paiements ont été rémunérateurs, étaient-ils destinés à éviter de payer des impôts sur les sociétés pour le Barça et sur les revenus pour le joueur. Toujours selon El Mundo, début 2016, l'ouverture de l'enquête fiscale concernant Messi aurait conduit au changement de nature des versements. Il n'aurait pu bénéficier de déduction, mais aurait été grévé de 45% d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire considéré comme une partie du salaire.
Et Lionel Messi n'a donc pas régularisé sa situation ?
Bien si, c'est même le Barça qui l'aurait incité à le faire, hein, surtout quand l'Argentin a été condamné pour fraude à hauteur de 4 millions d'euros, correspondant à des droits à l'image. Mais Messi aurait régularisé sa situation de sa fondation auprès du fisc. Cela dit, au final, c'est le Barça qui aurait financé le montage en ajoutant 12 petits millions d'euros au moment de la reconduction du contrat du joueur.
Quels enjeux économiques derrière tout ça ?
Eh bien, depuis une trentaine d'années, la médiatisation des grandes compétitions sportives et des athlètes de haut niveau, le développement du sport de masse et l'évolution des modes de distribution ont conduit à la massification et à l'internationalisation des marchés du sport. Alors en France, il représente aujourd'hui environ 37 milliards d'euros, incluant la construction des infrastructures, l'événementiel, les licences sportives et les dépenses d'équipement des pratiquants amateurs et professionnels. Alors cependant, la promotion de l'exercice physique sous toutes ses formes reste une priorité de santé publique qui vise notamment à prévenir les maladies chroniques non transmissibles et la perte d'autonomie, surtout que de récentes enquêtes montrent que nombreux sont les Français qui ignorent encore ses bienfaits.
Qui interprète Fédération Tunisienne de Football. Merci Vladimir Andreev.
Merci à vous.
Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour parler de sport mondialisé. Je rappelle le nom de vos ouvrages en français, Mondialisation économique du sport aux éditions De Book, et en anglais, Disequilibrium Sports Economics aux éditions Edward Elgar. Vous pouvez réécouter nos émissions à l'envi et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @mbesri. Hashtag Entendez-vous l'écho. On se retrouve demain pour une nouvelle émission consacrée au sport comme bien commun.